vais peut-être être le seul, mais Burnley, je vais m'ennuyer.
Messieurs, je suis tanné de Man City.
Honnêtement, la clé dans tout ça, c'est Yves Bissouma.
Pour moi, ce joueur-là, c'est un mystère.
C'est des gros souliers à chaussée, mais je pense que notre Mouépou est capable.
Je vous annonce qu'Alexander Mitrovic va marquer autant de buts que le nombre de saisons des Trois Lions, c'est-à-dire 5!
Les Trois Lions, le Québec, l'Angleterre est en deuil. Oh. Thomas Tuchel a perdu son emploi. Et Graham Potter est rendu à Chelsea. Mais surtout, la reine est décédée et on n'a pas eu le droit à notre soccer anglais habituel. Justine, est-ce que ça va? Bon.
Je sais pas. Oui?
OK. Ben oui, ça a l'air que oui.
OK.
OK, good. On peut partir ça? Vous écoutez l'épisode 8 de la saison 5 du podcast Les Trois Lions et vous l'avez entendu, je suis en compagnie de Justine Lompré. Justine, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va très, très bien. Content qu'on... d'être là quand même, malgré le fait qu'on n'a pas de soccer, mais on avait une couple de trucs à éclairer, je pense, à discuter depuis une couple de semaines, puis on va pouvoir là, comme tout analyser ça, en fait, au courant de la prochaine heure. Avec nous, l'autre Lion habituel, Bruno Larose. Bruno, bonsoir.
Bonsoir, les amis, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ah, oui, ça va.
Tu passes une belle fin de semaine?
Je suis un peu fatigué.
Ouais, c'est ta soeur qui se mariait hier?
Non, c'était pas ma soeur. C'était une amie de ma copine que je connaissais pas vraiment.
Bon, t'as passé une belle soirée?
Ben, j'ai bu.
OK.
C'est ça qu'il fallait retenir.
Je comprends ça. Puis écoutez, les amis, avec nous, comme on va essayer de faire à chaque fois qu'il n'y a pas de match, donc souvent pendant les pauses internationales et quand la reine décède, c'est-à-dire une fois aux 70 ans, on va recevoir justement des invités pour venir parler un peu de leur rapport au soccer, puis venir un peu là, bousculer notre dynamique lyonnaise qu'on a depuis déjà quelques années. Et cette semaine, en fait, je suis vraiment content de recevoir mon ami avec qui je passe vraiment beaucoup trop de temps depuis quelques jours, quelques semaines, Maxime Carabine. Salut Max, comment ça va?
Salut vous autres, ça va super bien, merci.
Bien, ça va très très bien. Je suis content que tu sois là, comme je l'ai dit. On te connaît pour tes analyses dans Nord Martiaux Mix, que ce soit du côté de l'UFC ou tous les autres organisations, souvent où on va y avoir des combattants canadiens ou québécois. Mais tu es quand même un fan de sport en général et un fan de soccer. Peux-tu nous parler un peu de ton rapport en fait avec le soccer? Ça a commencé où tout ça?
Oui, ben le soccer, moi aussi je suis très ravi d'être là. D'ailleurs, là, j'étais super excité là, dans les dernières heures de savoir que j'allais pouvoir parler de soccer. Ça fait très longtemps. Comme tu l'as dit, je fais beaucoup d'arts martiaux mix depuis quelques années. Mais moi, le soccer, c'est mon premier amour. Là. J'ai joué depuis l'âge de 5 ans jusqu'à mes 19 ans à peu près. Là. Puis j'ai joué à un pas pire niveau. J'ai toujours été aussi un geek du sport. J'ai suivi toutes les coupes européennes, toutes les coupes du monde. Puis la Ligue des champions, là, je vais toujours m'en souvenir là, tout au long de mon secondaire. Là, j'attendais là, la mi-mai, 25 mai à peu près. Là, puis c'était tout le temps une journée incroyable pour moi. Ce sport-là a pris un petit peu de recul, malheureusement, au cours des dernières années, parce que les arts martiaux mixtes prennent vraiment toute la place. Mais sinon, écoute, j'ai eu la chance de faire partie des ultras durant une longue année, l'année Drogba en plus. Je trippe sur le soccer beaucoup. Je pense que je vais bien faire dans le quiz que t'as dit que t'allais faire tantôt. Puis non, comme je te dis, c'est mon premier amour, fait que j'ai que du love pour le soccer.
Très cool, très cool. Max, on peut, si la voix est familière, c'est parce qu'on t'a entendu à maintes reprises au 91.9 Sport où tu as passé quand même, je dirais, une bonne partie de l'été, beaucoup de chroniques sur le show du matin. Peux-tu nous parler un peu de ton expérience à la radio, disons, plus professionnelle que présentement?
Oui, ben c'est drôle. Moi, j'ai vraiment pas étudié en journalisme en plus. Puis effectivement, je suis comme le chroniqueur d'art martiaux mixte de l'été, durant l'été au 91.9 Sport, grâce à Anthony Marcotte. Qui m'appelle tout le temps, il est fidèle, puis il veut tout le temps avoir de mes nouvelles, puis m'entendre parler d'art martiaux mixtes, il sent que je suis passionné, puis c'est super le fun. Mais franchement, moi, étant TQ, j'avais toujours voulu être soit un athlète ou soit un journaliste sportif, fait que En travaillant au 99 Sports, ben, j'ai réussi à réaliser un peu ce petit rêve-là. Puis c'est une belle expérience. Franchement, là, c'est un milieu qui est cool. Que du monde nice, tu sais, c'est tous des tripeux de sport. Fait que c'est difficile de pas s'entendre avec eux quand tu es un gros geek de sport comme je suis. Fait que non, super content de faire partie, entre guillemets, de l'équipe du 99/BPM Sport. Puis sinon, ben, surtout le MMA Talk, qui est mon employeur premier, je te dirais, dans le journalisme. Mais c'est bien le fun de faire de la radio professionnelle de temps en temps.
Les amis Justine et Bruno, je vous pose une question quiz pour déjà débuter. Hier, il y avait un pay-per-view. Même Justine, ouais. Tu es au courant. Tu as fait un commentaire sur Nate Diaz dans notre, notre conversation.
Est-ce qu'il est mort à l'heure où on se parle? Est-ce
qu'on, non, mais lui, il était correct. Ou... Okay. Lui, ça allait.
C'est non, il n'est plus, plus capable de parler, là, lui. Là.
Ah non, mais ça...
Il était déjà pas capable.
Non, mais... Faisait peur. Je m'attendais pas à ça matin. Genre, je vais regarder, il y avait un gros combat hier. Mais je l'ai entendu en entrevue, puis là, je fais oh mon Dieu.
Ah, mais c'est il est fascinant d'être en entrevue. Puis ça, c'est fou parce que c'est quand même assez rare que.
C'est, en tout mais, cas, là, mais c'est pas un podcast de, MMA, mais il faut que je comprenne parce que moi, je vais vous le dire bien franchement, là, je trouve que c'est un sport de bobette. Okay? Des gars en bobette qui se tapent dessus. Mais je comprends le hype, je comprends l'effervescence. C'est comme quand il y a des gros galas de boxe, je comprends tout ça. Puis à la limite, je vous le dis, ce matin, ça m'intéresse. Là, là, à un moment donné, il y a Nate Diaz, OK, qui, pour le peu de cellules qui lui reste, il en a utilisé une pour pas se battre, dans le fond. Là, là il faisait comme il se promenait autour de moi, puis il prenait une pause, genre. Puis là, l'arbitre n'arrêtait pas de dire « Let's go, fight, fight, fight! » Mais pourquoi il fait ça, dans le fond? C'est parce que, un, il était fatigué. Deux, il est cocky. Trois, toute réponse.
Moi, ouais, Max, j'irais avec question. Trois, je ne sais pas pour toi. Hein?
Ouais, toute réponse.
Classe, parce qu'il est vieux, là, dans le fond. Mais il est vieux. Il n'est pas vieux, là. Je m'excuse aux personnes. Mais il est quand même âgé. Ça fait longtemps qu'il se fait taper sa gueule, là.
Ouais, ouais. Puis il est pro. Il est dans l'UFC depuis 2005 aussi, là. Fait que c'est sûr
il
que...
Y avait, lui et Georges Saint-Pierre ont combattu en même temps.
Oui, oui, pas contre, mais oui.
Pas contre, mais dans le même...
Exact.
Dans la même époque. Ben moi, si je peux rapidement rajouter là-dessus, hier, tu sais, on était tous super, genre, on était on capotait sur le combat-là, vraiment, mais c'est vraiment un combat que j'aurais pas montré à quelqu'un qui veut s'intéresser aux arts martiaux mixtes, parce que c'est un combat de légende, tu sais, c'est un petit peu comme si tu regardais, genre, les légendes de Manchester United contre les légendes de Manchester City, s'il y en a, tu sais. Tu montres ça à quelqu'un qui ne suit pas trop le soccer, il va être comme, mais il est donc ben à chier, Bobby Charlton, tu sais, ou genre de con de même. Mais comme, c'était juste la beauté de voir deux vétérans de l'UFC se battre l'un contre l'autre. Puis, tu sais, c'était tout en même temps, tu sais, les niaiseries de Nate Diaz, puis tout. Fait que je suis d'accord avec toi que d'un œil professionnel sportif, c'était pas le combat le plus reluisant. Puis, Nate Diaz, c'est loin d'être le premier combattant que je vais montrer à quelqu'un qui veut s'intéresser au sport. Mais pour nous, les fervents amateurs d'arts martiaux mixtes, c'était. Que du bon qu'on a vu à
trois. Ben, on a déjà vu ça dans la boxe aussi.
Ah, des freak shows comme ça.
C'est des affaires qui rapportent des millions de dollars pour Vegas, mais qui, dans le fond...
Non, clairement. Ça me ramène à mon quiz, les amis. Hier, oui. on a regardé l'événement mettant en vedette justement Nate Diaz et Tony Ferguson. Combien de temps pensez-vous qu'on est resté en live sur Facebook et YouTube avec MMA Talk? C'est comme une question Price is Right.
Ben, ah, c'est long, c'est long ces affaires-là.
Ouais, puis vous avez probablement commencé au combat de l'Ennis qui était comme le premier, là, fait comme à genre probablement comme 7 heures ou 6-7 heures. Fait que,
ça finit genre 2 heures du matin.
Tu dis 6 heures, Bruno?
Ouais, plus que 6 heures, assurément.
Attends, 7, 8, 9, 10, 11. Ça n'a pas fini genre à 1h50 le dernier combat?
Ben là, ça va donner la réponse, je réponds.
Ouais, mais parce que il me semble que TSN disait ça ce matin. Peut-être que je me trompe. Je sais pas, 7 heures?
On est resté 6h30 à peu près. Merci. Parce que l'événement quand même finit tôt, là, Max. Je ne m'en rappelle pas exactement. Je suis tombé sur le 20, là, mais il était comme minuit et demi.
Quand gros week-end pour Étienne.
Il était
1 heure,
ouais.
Non, il était
1 heure,
OK.
Ah, c'est ça.
Okay. Ouais. Fait qu'on est resté 6h30 à peu près ou 7 heures en live en direct. C'était bien le fun. On a eu bien beaucoup, beaucoup de plaisir. Et tout. Les amis, on va tomber dans nos actualités de la semaine. On peut aller en fait, commençons. On peut brièvement commenter, si vous voulez, le décès de la reine qui, en fait, a surtout fait en sorte qu'on ne s'est pas levé avec notre soccer anglais habituel le samedi matin. Justine, fan de la monarchie et de l'Angleterre en général, comment as-tu pris cette nouvelle cette semaine?
Fan de la monarchie.
Ben là,
je pense qu'il y a des gens qui sont plus fans que moi, mais en fait, Je pense pas que le mot fan est approprié plus que intrigué. Puis j'aimais beaucoup l'histoire au secondaire, j'aimais beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup tout ce qui est très, très historique. J'ai adoré la série The Crown, par exemple, où on parle de la... Mais tu sais, la reine, pour les femmes de ce monde, c'est comme une des premières féministes, là, si tu veux, là, à contre-courant un peu de ses idées et tout ça. Donc moi, je suis ben, on fallait s'en attendre, tu sais, c'est drôle parce qu'avec mes collègues à la ville, on était comme, j'espère que comme le scénario des funérailles est prêt parce que ça fait longtemps qu'ils ont pu préparer ça. Tu sais, genre, ils sont pas comme. Moment historique. Tu sais, aujourd'hui, on est le 11 septembre. On se rappelle tous du moment où on était au 11 septembre 2001. J'ai comme l'impression aussi qu'on va se souvenir où on était le 8 septembre 2022. Moment historique, ça a été notre reine, ça a été la reine de nos parents, de nos grands-parents, puis même de nos arrière-grands-parents des fois. Fait que non, un moment historique. Alors, the queen is dead, long live the king. Voilà.
Bruno, toi, en tant que fédéraliste convaincu, tu te lèves tous les matins la main sur le cœur en prêtant serment à la reine, comment t'as accueilli cette idée-là?
Avec très peu d'intérêt. Et je veux juste dire que moi, je me souviens déjà pas, j'étais où le 8 septembre 2022? Ça fait 3 jours. Fait que c'est ça. Ça a bien été.
Mais tu sais, qu'on soit fan ou pas, qu'on soit pour ou contre, parce que veux pas, je pense qu'en 2022, il y a plus de raisons d'être contre que d'être pour cette monarchie-là. C'est quand même historique dans l'histoire. Puis, tu sais, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de nations, entre autres les Américains, qui ne font pas partie de la monarchie anglaise, qui s'y attardent beaucoup parce que c'est fascinant, là, cette histoire-là. Mm-hmm. C'est une des très rares monarchies qui a perduré dans le temps aussi longtemps. Puis là, on n'est pas un podcast d'histoire. Là. Je ne voudrais pas que Laurent Turcot m'envoie une mise en demeure. Mais c'est fascinant que ça reste, ça perdure dans le temps. Puis de me demander pourquoi je me lève des fois à 4h30 du matin pour regarder un mariage royal, j'en ai aucune idée. C'est probablement les mêmes raisons pourquoi je me lève à 4h du matin pour regarder une game de curling entre la Norvège et le Danemark.
Ah, mais les Olympiques, c'est les Olympiques, Justine.
Ouais, c'est les Olympiques. C'est
mais tout ça pour dire que ça a fait qu'il n'y a pas eu de soccer en fin de semaine du côté d'Angleterre et de l'Écosse.
Oui.
Mais au Québec, il y en a eu. Au Canada, il y en a eu. Aux États-Unis, il y en a eu. Il y en a eu un peu partout. Il y a eu des matchs de la Liga. Il y a eu un petit peu partout. Fait que. Donc voilà, on a eu une pause, une break, puis ça, je pense que ça nous a permis de faire la lumière sur la semaine mouvementée en Premier League. Hey, parce que malgré qu'il n'y ait pas eu de match, il s'est passé tellement de choses fascinantes, désolantes, intrigantes, que, puis tu sais, je pense qu'il y a des gens qui avaient besoin du week-end de pause pour se remettre de leurs émotions.
Ah oui.
Puis je parle de peut-être nos amis de la ville balnéaire.
Eh bien, moi, j'espère beaucoup que Brighton a pris la fin de semaine pour relaxer
s'en remettre un peu, ouais, genre.
Ouais. Bon, c'est pas grave, là, ils ont des coachs d'élite qui s'en viennent. Fait que...
Oui. Nous, entre autres, nous. Mais...
Effectivement. Mais écoutez.
Non, mais Adam Lallana, je pense pas qu'il était très, très prête, là. Peut-être qu'il chiait dans ses shorts un peu et qu'il était comme. Hey, c'est sûr. J'espère qu'il faudrait qu'il arrive quelque chose pour pas qu'on joue en fin de semaine. Boum, la reine à marme. Mm-hmm. Le gars, il est mort de rire, il est comme si c'était ça.
Le moment, ils sont allés le voir, puis on dit Adam, ça va être toi le coach en fin de semaine. Il a fait comme moi.
Ah non, c'est sûr. Pas rapport, là.
C'est sûr.
Mais le gars, c'est pas ce qui se passe. Mais pour de vrai, tu le regardes à l'âme de la note, il a l'air d'un coach. Il a la face d'un coach. Il a la face d'un coach.
Tu sais, lui, il est tellement tout le temps blessé que d'après moi, il a appris d'être ses lignes de côté. Fait comme, tu sais,
c'est pas correct, je pense. C'est sûr que lui,
les amis, on va y aller en ordre chronologique un peu pour si vous suivez pas trop le soccer anglais, tu sais, vous avez peut-être pas appris le départ. Pour vrai, très surprenant, là, parce qu'on regardait Brendan Rodgers, on regardait. Ben, peut-être pas Stephen Gerrard, mais il y avait d'autres candidats au renvoi qui étaient beaucoup plus propices que celui de Thomas Tuchel de Chelsea. Honnêtement, je me suis réveillé, j'ai vu ça, je pensais vraiment que c'était une blague. Puis, ben non, Thomas Tuchel, après
18 mois.
Une sixième place en Premier League, à peu près 3 victoires, 2 défaites, 1 match nul, ouais. Et 1 défaite en Ligue des champions et licencié. Bruno, est-ce que c'est tôt? Est-ce que ce avait lieu d'être? Là?
Ben moi, comme tu as dit, Étienne, je pensais que c'était pas vrai. Là. Puis tu sais, j'ai pris mon téléphone, j'avais pas encore mes lunettes, fait que ça veut dire que je voyais pas super bien. Puis là, j'ai dit non, la source n'est pas fiable. J'ai mis mes lunettes. Puis là, je vais être comme OK, non, la source est fiable. Je ne comprends pas ce qui se passe. Honnêtement, oui, c'est rapide. Même à ce jour-là, ça fait presque une semaine, là, disons, qu'on a eu la nouvelle. Là. C'était mercredi. Là, fait que, mettons, ouais. Ça fait quand même 4 jours là, facile. Puis je comprends pas. Après coup, tu dis comme le board à Chelsea n'ont pas l'habitude d'être super patients, là, mais quand même, là, je comprends pas, sincèrement. Je comprends pas.
Max, toi qui t'es peut-être moins suivi ça de près, si tu as suivi le soccer anglais dans les 15 dernières années, tu sais que Chelsea a la gâchette quand même assez rapide sur ses entraîneurs. Tu sais, en début de saison, après un mois, virer son entraîneur après quand l'équipe est sixième, qu'il a une bonne fiche, est-ce que pour toi, ça a beaucoup de sens?
Ben oui, quand même. Le sixième pour Chelsea, ben, c'est pas que ça fait beaucoup de sens, mais je veux dire, je suis pas tant surpris. Mm-hmm. Parce que sixième pour Chelsea, c'est nul. Oui, ça fait quelques années que je suis moins ça, mais écoute, au tournant des entre 2010 et 2020, c'était une machine. Là, fait que je ne suis pas surpris qu'il licence lui. Mais pourtant, ils ont gagné l'Europa League avec ce coach-là, si je ne me trompe pas.
La Ligue des Champions, quand même.
La Ligue des Champions, c'est ça. Fait que, ouais, c'est un peu rapide sur la gâchette, mais je ne suis pas surpris. Chelsea, big money, ils vont aller chercher un gros coach. Puis on va oublier rapidement le règne de Tuchel, là, pour le temps qu'il était là, il a quand même rapporté une Ligue des Champions, fait que tant mieux pour lui.
Toi, Justine, comment c'est ton équipe de cœur, en fait. D'ailleurs, on reviendra après, mais justement, c'est ton équipe de cœur, Chelsea. Tuchel, j'imagine que tu le voyais pour quelques mois, encore au moins quelques années, je sais pas.
La statistique intéressante, c'est que c'est 8 entraîneurs en 10 ans pour Chelsea. C'est énorme. C'est énorme.
Il y a du succès dans ce temps-là.
Oui.
Il y a deux Ligues des Champions, je pense.
Il y a deux Ligues des Champions. Il y a deux titres de Ligue des Champions. Tuchel a pratiquement tout gagné dans les 18 mois ou un petit peu plus qu'il a été là. Il a gagné la Super Coupe des clubs. Il a gagné la Champions League. Un autre trophée quelconque. Honnêtement, mais je trouve ça d'une tristesse, en fait, infinie. Parce que quand on a licencié Frank Lampard, c'est parce qu'on venait de réaliser qu'on avait fait une erreur, qui en était une, en fait, de prendre un gars qui avait un amour pour le club plus grand que personne d'autre, puis d'essayer de lui donner les rênes d'une équipe qui était un peu en reconstruction. Là, tu fais venir un des meilleurs clubs coach européen en ce moment, dans son prime. Pour vrai, Thomas Tuchel est dans le top 5 des meilleurs entraîneurs au monde en ce moment. Puis, première année, il gagne la Champions League, ça va bien. L'année passée, des hauts, des bas, mais somme toute, une bonne saison, compte tenu que Liverpool et City sont un pas devant tous les autres clubs. Et là, durant l'été, tu lui mets à peu près 8 nouveaux joueurs dans les pattes. Des gars qui, à part, mettons, Aubameyang qui a déjà coaché, là, tu te dis « OK ». Puis là, il faudrait que la sauce, ça pogne maintenant. Quand il te manque ton meilleur milieu de terrain en N'Golo Kanté. Donc, je trouve ça très triste, mais en même temps, c'est très américain. Mais là, tu vas me dire « Justine, c'était un Russe, puis il faisait la même affaire ». Oui, mais alors, c'est très, très... on est un peu au même style que Joey Saputo, si vous me suivez. Là. On est dans le même genre. Là. On veut gagner maintenant et là. Puis on pense que c'est le changer de coach qui va aider. Je suis très triste pour Thomas Tuchel qui a mis un beau message de revoir aujourd'hui en disant que c'est la pire des émotions qu'il a jamais vécues. Il est détruit. Il pensait rester longtemps à Chelsea. Il s'en attendait pas. Il savait que le début de saison était un petit peu difficile pour certains joueurs. Il va se trouver... De penser qu'il ne va pas se trouver un autre emploi, ça serait très, très surprenant.
Ça sera pas long.
Ça sera pas très long. Puis on va parler du successeur dans quelques minutes, mais sinon, c'est une décision absurde à mes yeux, à moi, mais bon. On bouge.
Max l'a dit, là, son successeur est déjà annoncé, déjà de très grande qualité. Il s'agit de Graham Potter, qui était le coach de Brighton. Brighton qui fait un excellent début de saison. On peut quasiment le mettre au passé. Là, j'ai hâte de voir comment l'équipe va rebondir. Mais qui est quatrième compte tenu du budget de l'équipe, de son recrutement également. C'était fou ce que Graham Potter faisait. Moi, je l'aurais aimé du côté de Manchester United. Pas nécessairement à la place de Ten Hag, mais en sachant pas quand on cherchait un remplaçant à Ole Gunnar Solskjaer ou même à Ragnick, j'aurais pris Graham Potter. Là, ça en va à Chelsea, mais c'est pas tout. C'est ça qui est complètement fascinant, c'est que Graham Potter s'en va, son assistant également, deux entraîneurs de l'équipe première, l'assistant chef du recrutement et l'entraîneur des gardiens prennent la direction de Chelsea et Kit Brighton. C'est terrible. C'est terrible. Max, qu'est-ce que tu penses? Justement, c'est le coaching staff au complet qui s'en va pour une équipe qui ne devait pas s'y attendre non plus.
C'est rough, man. Écoute, je voudrais pas être un partisan de Brighton en ce moment. Méchante belle fidélité de la part du groupe d'entraîneurs. Mais écoute, Chelsea, c'est une grosse équipe. Fait que je suis pas surpris, mais il était en première ligue aussi, Brighton.
Ouais. Exact. Ouais.
C'est fou un peu. Là, dis-toi, ils vont jouer contre eux dans trois semaines. Genre, ça va être tout le temps. C'est un peu spécial comme move.
Je pense, habituellement, c'est rare qu'on voit des gros changements, surtout en début de saison comme ça, mais de voir le changement, puis de voir que tout le monde quitte comme ça pour la même équipe, ça, j'ai l'impression que c'est du jamais vu. Là.
En plus, il y avait une belle histoire, tu disais que Brighton, ça allait super bien, puis tout, fait que on dirait que tout va juste mal aller finalement à cause de ce move-là.
Il y a quand même des bonnes chances. Tu sais, ça, c'est le temps va nous donner la réponse au cours des prochaines semaines. Mais écoute, je les vois mal. Tu sais, Justine, je les vois quand même mal Brighton être, je sais pas, là, maintenir sur sa lancée. Là. Déjà qu'avec Potter.
Mais en même temps, on savait que ça allait pas tout faire comme ça de toute façon.
Tu sais, durant l'été, on se demandait un peu si Potter allait rester à Brighton. Il y avait pas vraiment d'ouverture dans des grands clubs. C'est sûr que Potter n'allait pas quitter pour un club, mettons, inférieur. C'est un excellent coach. C'est un coach qui pourrait perdurer dans le temps du côté des Blues. Va-t-il le faire? Est-ce que le board de Chelsea va tolérer ça? Parce que là, on va devoir avoir des résultats rapidement dans les prochaines semaines, avant la Coupe du Monde. La décision, est-ce que je suis contente que ce soit Potter? Oui. Je trouve ça triste pour Brighton, qui est un club qu'on apprécie grandement. Mm-hmm. Mais je veux saluer le board de Chelsea qui ne s'est pas laissé influencer par le nom du gars, OK? Parce que là, on a parlé de Pochettino. Et ça aurait été tellement Chelsea de faire « Je m'en vais aller chercher Pochettino. Mm-hmm. » Puis, on le sait que ça aurait chié. On le sait, là. C'est écrit dans le ciel. Mm-hmm. Ce gars-là, malheureusement, je pense que la Premier League, c'est pas fait pour lui. Mais c'était sûr que... Moi, pour vrai, j'ai eu peur. Là. Pour vrai, j'étais comme... Non, si jamais on se débarrasse de Duchel pour Pochettino, je sais pas qu'est-ce que je vis. Mm-hmm. J'ai pas... On est allé chercher le meilleur coach disponible, entre guillemets, parce qu'il était pas vraiment disponible.
Ouais, il était pas vraiment disponible.
Ça change la game, là. Là, je sais pas. Puis je sais quand l'année passée, on avait une discussion par rapport à est-ce qu'il y a un transfer window pour les joueurs? Alors, le mercato de janvier, le mercato d'été. Puis là, on se dit tout le temps comme, OK, fait que pour les entraîneurs, là, ça prend quelque chose comme ça. Parce que là, c'est pas normal qu'en plein milieu d'une saison, la fenêtre de transfert est fermée, tu peux aller vider un club de ses entraîneurs pour plusieurs millions de dollars. Parce que là, il n'y a plus de limite. Là, c'est terminé. Là.
Oh,
je veux
dire,
si jamais... je ne sais pas. Là, Madrid veut Klopp, mettons. Là, ben, ils vont lui offrir 50 millions. Puis ils vont dire en plein milieu du mois de novembre, mais tu t'en viens avec Madrid. On est là. Là. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Mais si même les coachs, en plein milieu d'une saison, peuvent changer d'équipe comme ça, moi, je trouve ça... absurde. Je trouve ça d'une absurdité. En fait, ça devrait même pas être légal.
Ben, c'est vrai que c'est intéressant, ça. Bruno, qu'est-ce que tu en penses de faire une fenêtre de transfert des entraîneurs? Ça, quand on voit des histoires comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Puis, là, on regardait Brighton joue pas la semaine prochaine. J'ai l'impression que c'est peut-être lié aussi. Là, peut-être qu'à un moment donné, la Premier League a fait « Oh, on va peut-être vous donner un break. » Ça n'a comme pas rapport à ce qui vient de se passer. Mais une fenêtre des transferts des entraîneurs, qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben, oui, je pense que ça pourrait être intéressant parce que là, c'est sûr que ce qui s'est passé avec Potter, tu sais, ça peut créer un précédent. Après ça, ça va. Est-ce que ça va arriver encore plusieurs, à plusieurs reprises? Ah, c'est quand même rare, tu sais, durant une saison. Hein?
C'est quand même des cas. On te parle un peu, Bruno, mais c'est quand même des cas isolés. C'est rare que ça arrive autant que ça, mais ça peut réarriver, là.
Ouais, non, c'est ça. Étant donné que c'est pas arrivé souvent, mais c'est sûr qu'il faudrait peut-être. Il faudrait mieux prévenir que guérir, là, j'en conviens. Mais il n'y a pas non plus un nombre important d'équipes qui vont vouloir et qui ont l'argent de faire comme « Hey, toi, on te veut. » Puis on s'entend aussi que des équipes, des histoires comme Potter, un gars comme Potter qui est avec Brighton, mettons Premier League, des entraîneurs de qualité comme Potter, il n'y en a pas tant que ça, que n'importe quelle équipe va vouloir faire comme « Ah, tiens, lui, je le veux, fait que je vais aller le chercher. » Fait que, tu sais, je pense que les grandes équipes, les grands clubs ont déjà des grands coachs. Fait que, tu sais, ils vont pas vouloir nécessairement chercher à un gars, un semi-no-name, mais qui a une belle saison là, dans un club de la même division, en tout cas. Fait que, mais oui, c'est sûr que ce serait une bonne idée de prévenir, évidemment, ce genre de trucs-là. Mais que tout le monde parte en même temps aussi, là, ça.
ils sont sous contrat, ces gens-là, mais... Tu sais, je sais, on est du genre à comparer avec ce qu'on vit à l'échelle locale, OK? Mais imaginez-vous, là, genre, que ça arrive, mettons, au hockey ou au football ou quelque chose comme ça. Un club de les Rams qui ont plus d'argent que whatever, qui vont chercher tout le coaching staff de l'équipe de football. Tu sais, ça fait aucun sens.
Ouais.
Mais on le vit dans ce... Moi, je peux pas croire qu'il n'y a pas de règles quant à ça. Je peux pas croire.
Écoute, à suivre si tout ça va amener une jurisprudence, là, puis voir si on peut bouger avec tout ça. Bon, pour le moment, on sait que bon, c'est des remplaçants à l'interne qui vont assurer l'intérim, dont Adam Lallana, qui était joueur, qui devient joueur-entraîneur pour Brighton, là, pas le choix. Et il y a un nom aussi qu'on connaît bien du côté de l'Impact de Montréal, Jack Stern. Oui. Qui a déjà été entraîneur des gardiens pour l'Impact et qui, là, était assistant, devient entraîneur des gardiens de l'équipe. Tu sais, honnêtement, au niveau du coaching staff, là, je ne sais pas si vous voulez commenter, là, mais je ne connais pas les gars qui sont là, puis on leur souhaite bonne chance, là, je pense. Clairement. À part Jackson, puis Adam Lallana.
Mais il y a une belle équipe sous la main, ils ont des joueurs avec un beau potentiel.
Mm-hmm. Ouais, ça. Anyway, ça ne va pas briser complètement, mais ça va faire. Peut-être plus vite que ce qu'on s'attendait. Là, parce que, tu sais, comme l'année passée, Brighton avait un début de saison incroyable. Puis à partir de novembre, ça avait commencé à slacker pas mal.
Ouais.
Fait qu'en même temps, Chelsea, ils vont avoir un coach qui est habitué, tu sais, d'avoir un bon début de saison. Puis après ça, à Noël, ça chie. Fait que. Il va être dans des pantoufles. Hein, dans ses pantoufles.
Ça va être parfait. Hey, Mac, je vais te demander. C'est ton équipe préférée au niveau européen, mettons, ça peut être hors Angleterre. Après ça, on irait avec l'Angleterre. Je vois ton chandail, là, je sais pas si on a les mêmes allégeances anglaises.
Ouais, j'ai toujours bien gros trippé sur Manchester United. Ce serait difficile de te dire une autre équipe. J'aimerais ça, on top of my head, pouvoir te sortir une équipe de Ligue 3 de Danoise, genre, pour avoir de l'air un peu... non, c'est Manchester United. Pas le choix. J'aime bien la Juventus aussi, là, mais Manu l'emporte.
Ah oui, je comprends. Puis est-ce que justement tu étais un grand fan de Cristiano Ronaldo au moment où
il était. Ouais, exact. C'est ça. Moi, je suis né en 91. Fait que dans mon prime, c'était pas mal Cristiano quand j'ai vu ses débuts à l'Euro 2004. Je pense pas qu'il était arrivé à Manu où il venait d'arriver. Puis c'est ça, j'ai trippé bien raide sur son style de jeu. Ses coups francs étaient débiles. J'ai toujours été un gars de showboating un peu, là, fait que le voir faire ses feintes et tout, là, je suis embarqué tout de suite dans la gimmick Cristiano Ronaldo. Puis écoute, Manchester United a tellement de belles histoires avec Sir Alex Ferguson, Wayne Rooney, tellement de grands joueurs qui sont passés par là que ouais, je suis tombé en amour avec les vrais mancuniens.
Les vrais. Je pense qu'au moins,
dans un point encore là,
avec Bruno, Justine. Bruno est plus pour Liverpool, Justine pour Chelsea, puis tout, mais pas City. Fait qu'on s'entend là-dessus, au moins. Les amis, on a dans le doc, là, vous avez des questions. J'ai l'impression qu'on va devoir les skipper aussi. Parce qu'on a transfert des deux, là, je veux vraiment plus qu'on parle de des deux puis de ce qui s'en vient aussi. Mais il y a eu des transferts comme qui sont terminés. Là. En fait, il y a eu comme deux, trois noms que je veux parler parce que j'ai vu ça passer. Un autre signature. Là, Justine, quand je dis que je signe pour Nottingham Forest, là, c'était quand même une bonne blague.
Non, mais il était trop tôt pour que je la comprenne.
OK. Parce que dans notre groupe, j'écris. Je viens de signer pour Nottingham Forest parce que Nottingham Forest a signé 23 gars cette année, puis c'est même pas une joke. Puis Justine a comme pas compris, mais 8 fois. Là, genre. Ça va?
Je travaille de jour.
La reine était morte.
La reine est morte. Les trois lions sont en deuil. Les amis, il y a Serge Aurier qui s'en vient du côté de Nottingham. Ah, ouais.
Pour vrai, je l'avais même pas vu, ça.
Ouais, oui, ouais, il a signé. Hey, il a 29 ans.
Il est en ligne, même pas si vieux.
Il n'est pas si vieux que ça, mais ouais, à voir s'il va être capable de jouer. Puis en fait, l'autre signature que je voulais parler, c'était Juan Mata, mais lui, il avait déjà quitté Manchester United. On savait qu'il avait pas été, son contrat n'avait pas été renouvelé. Et il s'en va du côté de Beşiktaş en Turquie. Ah,
le rêve.
Et Tabor.
Ouais, ben c'est ça. Je comprends.
Mais Étienne, je vais faire ça rapidement, là, mais c'est très niché, OK, parler de la fenêtre de transfert de Nottingham Forest. Mais oui, outre le fait qu'ils ont... Tu sais, je veux dire, j'ai pauvre Max, c'est quand même... Mais pour de vrai, je veux dire, c'est beaucoup de joueurs, mais il y a là-dedans des beaux projets, je pense, pour Nottingham Forest. Ça va peut-être pas marcher cette année.
Mais ça se peut que ces projets-là soient en Division 2 l'année prochaine.
Mais ça se peut que ces projets-là soient en D2. Mais pour de vrai, il y a plusieurs de ces signatures-là, je suis comme... Je comprends pas. Mais il y a d'autres choses, je suis comme... Ah, tu sais, comme Aurier, pour vrai, je suis comme... Ce gars-là a un semblant de talent. Là.
Peut-être.
Mais c'est ça. C'est ça.
On a dépensé 161 millions.
C'est même pas tant que ça. Parce que c'est 384 pour Chelsea, puis on est fucking sixième.
Oui,
sixième,
oui. Oui, mais oui, mais Nottingham Forest n'ont pas les mêmes moyens que Chelsea non plus.
Mais ils ont de l'argent. De penser qu'ils sont pauvres. C'est un des clubs légendaires de la Premier League, du football anglais.
Mais la légende...
Mais
c'est
voilà.
Pas ça qui paye les bills.
Non, c'est ça.
Non. T'as beau être cute, faut que tu payes tes impôts.
Effectivement. Mais non, mais oui, j'ai juste hâte de voir ce qui va se passer avec eux. C'est juste, c'est 11 gars. Là. C'est 22 gars. Là. C'est 2-11. Là. T'as deux équipes complètes.
Ils sont même pas genre sur le banc. Genre. Ils ont signé puis ils seront même pas sur le banc.
Non, mais il y a des gars qui s'en vont en... Il y a des gars qui sont en U23. Il y a des gars qui sont repartis. Tu sais, je veux dire. Ouais.
Hâte de voir. Pour l'instant, l'équipe est combien, Nottingham Forest? Est 19e.
Ouais.
Bon. Pour l'instant, ça paye en plus.
Mais si tu me demandes, c'est quoi ton... Justine, quel genre de club... Par quel genre de club tu voudrais passer pour rentrer en Premier League? Mm-hmm. Moi, ça sera un club comme Nottingham Forest.
Ouais. Dans quel sens?
Le stade est beau. Stade est écœurant. Les fans, c'est des mordus de foot. C'est hallucinant. Il y a cette espèce de rivalité avec Manchester United hyper intéressante. Du genre de beau club. Beau logo.
Beau logo. Écoute, moi, je choisis une équipe pour son logo. Là, c'est Nottingham Forest all the way. Là.
Non, mais tu veux dire, tu demandes. Tu sais, là, que tu t'as une saison à FIFA.
Oui.
Tu peux t'embarquer ton joueur dans Nottingham Forest.
Ah oui. Je t'entends.
C'est vrai. J'entends ce que tu dis.
Je suis pas d'accord, mais j'entends, oui. On va parler de Ligue des... On parle de Ligue des Champions. On fait le planning, là. Ligue des Champions, D2, puis quiz.
Moi, je pense que la Ligue des Champions, on peut passer ça rapidement parce que ça n'a pas super bien été.
Donc, on va en parler beaucoup. On va aller chercher.
Mais oui. Est-ce qu'on pourrait commencer par D2? Parce que je suis déjà prêt pour la D2.
Ah, OK. Ben oui.
Parce que, tu sais, c'est écrit D2 ou Ligue des Champions.
Mais moi, regarde, Justine, tu iras chercher tes onglets pour la Ligue des Champions. Bruno pour la D2, puis je m'occupe du quiz. Bruno, on t'écoute.
Yes, ça va me faire plaisir. Donc,
attends. Je vais juste mettre un jingle.
Ah oui, un thème. Oh.
Alors, Bruno, la D2.
Bonne fête, on dirait. Donc, en première position de la deuxième division. Ben, c'est une équipe qu'on connaît relativement bien, hein? Sheffield United. C'était pas l'année passée, hein? C'était l'année d'avant qui était là. Hein?
Ouais, exact.
Ça fait deux ans, ouais, c'est qui avait quitté. Donc, en première position avec 17 points, un point devant une équipe qu'on connaît très bien, Norwich City, qui était là l'année passée. Donc, 16 points. Là. On a quand même deux défaites, mais ça va quand même assez bien là, du côté de Norwich. En troisième position, on a Reading avec 15 points. Bristol City est quatrième avec 14. Burnley, cinquième avec 13 points. Et Watford est sixième avec 13 points également. Mais Burnley a un différentiel de plus 6 et Watford de plus 2. Donc, c'est ce qui fait que Burnley est cinquième. Et par la suite, bon, notre club de cœur, hein, chouchou, Sunderland est quand même huitième avec 11 points. Donc, seulement 2 points derrière les positions là, pour les playoffs. Mm. Donc, moi, tu vois, s'il y avait une équipe que je me partais un bonhomme à FIFA, ce serait Sunderland. Ça...
Ouais.
Ils ont eu un très beau mercato, Sunderland, en passant. Hein.
Oui. Il y a beaucoup de prêts, quand même.
Il y a beaucoup de prêts, mais c'est ça.
Mais si ça te permet, après ça, de comme, continuer sur ta lancée et de te battre au moins pour une des playoffs, moi, je ne les vois pas l'année prochaine en première division. Là. S'ils réussissent et Colin Debin, hein, c'est une grosse réussite, après avoir échoué tant souvent en troisième division. Mais si en D2, ça fonctionne pour Sunderland, moi, je suis partant. Et si on regarde le bas du classement, en 24e position, c'est Coventry City avec seulement un point. Aucune victoire encore pour Coventry City. En 5 matchs seulement, par exemple. Ça, il y a... Là, il faudra qu'on m'explique pourquoi Coventry a juste joué 5 matchs puis toutes les autres équipes en ont joué genre 8. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Si quelqu'un peut chercher ça, moi, ça, je comprends pas.
On va mettre, Bristol Mate là-dessus. Je pense que Bristol Mate est capable de nous trouver ça.
Mais ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont joué quand même 3 matchs de moins. Fait que bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ils ont quand même juste un point. Et en 23e position, une équipe qu'on a bien aussi, Huddersfield Town, qui continue sa chute. Hein. Et en 22e, c'est Cardiff City, autre équipe qu'on connaît assez bien. Mais en même temps, ils ont 8 points. Puis comme ils sont à un point d'être 16e. Fait que ça va quand même.
Ça va le faire.
Il y a beaucoup d'eau qui a le temps de passer sous les ponts, encore une fois. Pour ce qui est des buteurs, hein, ça c'est bien important, on aime toujours bien ça. Et Colin, c'est Oscar Estupinian de Hull City.
Hey, si dans la famille.
Je ne sais pas, il faudrait mettre quelqu'un là-dessus. Peut-être.
Je sais pas, mate. Non, peut-être... ça, je le checkais.
Non, mais c'est un Colombien. Je sais
non,
pas.
Non, c'est Stupinian. L'autre, Pervis, il est équatorien.
Ah, bon, ben, c'est peut-être un cousin, de la fesse gauche, comme on dit. Hein. Donc, avec 7 buts. Et en deuxième position, on a une égalité entre M. Stewart de. Je pense que c'est Ross Stewart. Ouais, c'est Ross Stewart de Sunderland. Ouais. Donc, bon début de saison. Et le roux, Josh Sargent. Quand même 5 buts. C'est le joueur du mois à Norwich. Hein, l'Américain, c'est lui, le joueur
c'est du bon.
Mois. Et puis, également en troisième position là, avec 4 buts, il y a plusieurs joueurs avec 4 buts, là, mais il y a Richard Woods qui joue à Rotherham, l'équipe de Max Cardinal. Donc, quand même, 4 buts déjà là, depuis le début de la saison. Au niveau des passes, Daniel Barlasher, qui est de Rotherham, donc peut-être que Max pourrait nous dire comment le prononcer. La prochaine fois, je vais lui demander. 4 passes décisives, il y a aussi Johansson et Wineman. Wineman, oui, exactement.
Wineman.
Donc, avec 4 passes décisives. Au niveau du clean sheet, ça, c'est intéressant. C'est Freddie Woodman de Preston North End qui a 7 clean sheets en 8 matchs.
Wow! C'est pas beaucoup de buts donnés, ça?
Mais c'est pas beaucoup de buts donnés. Puis là, moi, je les ai pas nommés dans le top 6. Là. Fait que, comme d'après moi, il en marque pas beaucoup non plus.
Non, ça, doit être 0-0 pas mal.
Ouais, je checker, ils sont où? Ah, ils sont 10e. Ils ont 2 victoires, 5 matchs nuls, puis une défaite. Fait que, c'est ça. Bon. Ils ont marqué. Oh, non,
on va,
ils ont
on
2 buts pour. 2 buts pour.
Bon.
On va se le dire en ce moment, là, on est dans. C'est très niché comme conversation.
Ouais, non, non,
tu sais, je veux dire.
Mais, non, mais 2 buts. Non, attends. 2 buts pour, 1 but contre en 8 matchs.
Ben, c'est une bonne défensive. On peut
ça, ça, là, c'est moins de buts que dans un match complet vendredi, ça.
Ouais. Ça mais imagine que... tes défenseurs centrales de cette équipe-là, t'es en crise.
C'est comme ouais, c'est bon.
C'est comme crise, on est
les deux. Ah, ok, stars. Pour après tes attaquants.
Oui.
Fait que moi, c'est un fait à noter là, quand même, mais monsieur Freeman, là, gros gars. En anglais, en plus, après moi, ça va être lui qui va partir à la Coupe du Monde. Fait que c'est assez. Il a des
Enfin, Bruno, si je te comprends bien, les trois équipes qui sont descendues cette année sont dans le top 6. Ah, qui sont descendues l'année dernière sont dans le top 6. Là, fait que la compétition est encore féroce.
Ouais, c'est ça. Norwich, Watford et Burnley sont dans le top 6. Donc,
cool.
Ils se gardent pas pire.
Justine, tu peux-tu nous donner les résultats des premiers jours de compétition européenne? Donc, Ligue des champions, Europa League et, si tu as le temps, la Ligue conférence.
Ça a commencé...
C'est les trois, là.
Non, c'est ça, je veux dire.
C'est vrai, les trois, on a perdu.
Les trois, ouais, ça fait plus mal, mettons. Hein?
Mais je vais commencer avec la Ligue des champions mardi. Ça a commencé mardi. Ben, Chelsea, qui a perdu contre Zagreb, qui a donné le coup de grâce à Thomas Tuchel. C'était tout pour les équipes anglaises du côté de la journée de mardi. Manchester City jouait mardi contre Séville. 4-0. Une promenade dans le parc. Parce que tu nous as nommé que tu aimais beaucoup cette équipe, sache que Paris Saint-Germain a battu la Juventus 2-1 également mardi. Désolé, Maxime. En parlant de match qui est mal allé, là, celui de Napoli contre Liverpool, pour Liverpool, ça n'a pas super bien été.
Hey, non, dégueulasse.
Défaite de 4-1. Et,
dans tout ça, Alisson a arrêté un tir de pénalité.
Oui, en plus. Et pour compléter là, les équipes anglaises en Champions League, Tottenham a l'emporté 2-0 contre un Marseille, ma foi.
Contre Marseille.
C'est ça.
On va rester polis, là, mais tu sais, Marseille n'a jamais gagné en Ligue des Champions. Fait que, c'est ça.
Il a gagné une Ligue des Champions.
Ouais, non, mais tu sais, je veux dire, je pense que dans leurs 16 derniers matchs, ils ont comme 15 défaites, puis un match nul, ça, en tout cas.
Ouais, je comprends. Ouais.
On se transporte jeudi, le 8 septembre, jour de deuil national, bientôt. Arsenal a remporté son match contre Zurich 2-1. Wow. 2-1. Il y avait beaucoup de E-A. Parce qu'on aime ça. Je veux juste dire que Stade Rennais gagne. C'est tout. Je continue.
C'est vrai qu'on les aime, Stade Rennais.
Manchester United, Étienne, t'en as glissé un mot. Perdu. Perdu contre Real Sociedad. 1-0 quand même. Hein?
Ça va.
Ça n'a pas bien été. Du tout.
C'était dégueulasse.
Et puis, il y avait la Conférence League aussi qui commençait, si je ne me trompe pas, messieurs. Par contre, là, il faut que j'aille ici.
C'est
d'accord.
Western, mais ouais.
Oui, c'est ça. Ça vient. C'était également jeudi, le 8 septembre, et West Ham a gagné 3-1 contre FCSB.
Oh, la Conference League.
Tu as entendu parler de la Conference League, Max? T'as le droit de dire non, là. T'as vraiment le droit de dire non.
Non, je me mélange avec la Nations League.
Ouais, non, c'est ça, mais ils ont la Ligue des champions, l'Europa League, tu sais, ça va. Puis depuis, ça, c'est la deuxième édition de la Conference League, qui est comme en dessous de l'Europa League.
C'est comme la troisième division européenne.
Ouais. Exact. Mais là, tu sais, ça s'en va creux là, dans les équipes, pour vrai. Là.
Ouais, ouais.
Il y a du monde que, ben, c'est ça, le FCSB, là, que j'essaye rapidement là, de savoir si. Ah, j'ai Transfer Market, mais c'est ça, on n'a aucune idée.
On n'a aucune idée.
C'est dans quel pays, genre?
Je ne sais même pas. Je...
Ah, je l'ai. C'est une équipe de la Roumanie.
Ah,
ben voilà.
Ben, j'ai toujours aimé le Roumanie pour l'espèce d'obscurité que ça apportait. Oui. Puis genre, mais là, troisième division, je ne suis pas sûr.
Mais tu sais. Il y a plus obscur qu'obscur. Là. À un moment donné, c'est un peu exagéré. Là, l'équipe a terminé deuxième en Ligue roumaine l'année dernière.
C'est pas mal.
Pas des joueurs.
Non, j'allais dire de quoi de niaiser. Est-ce qu'une équipe de MLS pourrait se qualifier pour la Conference League? Mais j'imagine que c'est encore une fois juste des pays européens.
Exact. Il y a un joueur que je connais pour jouer avec lui à FIFA, là, Octavian Popescu, qui est dans le club. Je ne sais pas si à FIFA 22, là, il a vraiment beaucoup de potentiel. Fait que bon, c'est le nom qui me dit quelque chose dans cette équipe-là.
West Ham a gagné.
Oui.
qui est notre équipe en Conference League.
Oui, exact, cette année. Êtes-vous prêt pour le quiz?
Oui!
Super! Yes. Parfait. Ben, c'est ça, j'ai parlé à Max ce matin, j'ai dit, c'est laquelle année que tu as suivi le plus le soccer, question qu'on a les deux mains dedans. Il m'a dit choisir entre 2008 et 2018. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas revisiter la saison de la décennie dernière, donc il y a 10 ans, donc la saison 2012-2013 de la Premier League. C'est pas un quiz comme on fait habituellement où on a des indices et tout. Là. On se promène entre les choix de réponses, juste des questions Price is Right, des questions de le plus proche d'eux et des trucs comme ça. Et il y a une pondération qui est très aléatoire, là, je vous cacherai pas, ce quiz-là. Donc, si vous avez la bonne réponse, dites votre nom. Et puis, après ça, le premier qui dit son nom va pouvoir donner la réponse. Est-ce que vous êtes prêts, les trois?
Oui.
Oui, boss. Oui.
Yes. Alors, il y a eu beaucoup de mouvements en Premier League au cours des 10 dernières années. On n'ira pas Price is Right, juste la réponse la plus proche. Il y a combien d'équipes qui étaient de l'édition 2012-2013 qui ne sont pas de l'édition 2022-2023? Yes, Max.
6.
6. Qui dit mieux?
Je vais dire 9.
Et Bruno?
Je vais dire 8.
Et Bruno a la bonne réponse. Pile, il y a 8 équipes qui ne sont pas là et tu fais 2 points. Et pour 1 point chacun, vous aurez le droit de répondre vous aussi. Peux-tu nommer des équipes? On va y aller dans le plus proche. Donc Bruno, jusqu'à temps que tu sois plus capable, on va y aller avec Justine et Max après. On va essayer de ramasser les 8 équipes qui n'étaient plus qui ne sont plus en Premier League.
OK.
Qui étaient là en 2012, mais qui ne sont plus
exact.
Là.
Exact. Okay.
Je vais y aller avec Watford.
Non.
Après. Non, bon, ça part bien. Ben, je vais laisser les autres d'abord.
Justine.
OK. For sure, QPR.
Ouais.
Yes.
Qui était là en 2012, qui n'est plus là aujourd'hui. Sunderland.
Sunderland est une bonne réponse.
Je vais dire Derby County.
Oui.
Non. Non. Donc, Max.
Pour Max, là,
Mais c'est rough, là.
Ben, j'aurais dit Sunderland, mais après Sunderland, je vais dire Burnley.
Burnley, non, n'était pas de cette édition-là. Les autres équipes, les amis, c'était West Brom, Swansea, ben oui. Norwich, Stoke City, Wigan Athletic et Reading.
Wigan, c'était une... C'était, j'aimais ça, moi, ce club-là.
C'est une station balnéaire? Aussi.
Non, dans le sens que c'était une équipe, c'était tout ça, c'était difficile.
OK. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, là-dedans, il y en a qui sont remontés, il y en a qui sont descendus, tu sais, comme West Brom, qui était là l'année dernière, mais qui est descendu. Mais c'est ça. Là-dedans, il y a les 8 équipes. Et ceux qui ont été relégués en 2012-2013, c'est pas une question. Fait que je vais, c'est Wigan, Reading et QPR. Il a terminé dernier. Puis, à mon avis, je pense pas qu'on les ait revus. Peut-être QPR, mais Wigan et Reading, là, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça du temps où je suivais le foot. Qui a été le meilleur buteur? 3 points si en 2012-2013. 3 points si vous avez la bonne réponse. Puis si jamais vous ne l'avez pas, je donne 1 point parce que je vais avec des choix de réponse.
Justin.
Oui.
Aguero.
Max ou...
Ben, moi, je vais essayer Drogba.
Non plus.
Ce qui est un excellent cas.
Excuse-moi, Étienne, est-ce que tu pourrais répéter la question?
Oui. Ça a été qui le meilleur buteur de la Premier League en 2012-2013? C'est 3 points si tu l'as pile, puis je donne des choix de réponse pour 1 point si jamais.
Là, j'ai entendu Aguero, puis l'autre réponse, c'était...
Drogba.
Je veux dire Carlos Tevez.
Non. On peut faire une autre rente parce qu'il n'y a aucun des trois joueurs qui sont dans mes choix de réponse.
OK, attends. On a dit Aguero.
Drogba et Tevez.
Attends, c'est niaiseux, là. C'est sûr qu'on sait ça.
Je peux vous donner les choix de réponse, là. C'est qu'à ça, on ne passe pas 10 minutes dessus.
Ouais, on peut, ouais. Je pense qu'on va faire.
Alors, A, Gareth Bale. B, Christian Benteke. C, Michou. D, Luis Suarez. Ou E, Robin Van Persie.
Justin.
Justin.
C'est Van Persie.
C'est effectivement Van Persie.
Et puis si je ne me trompe pas, c'est genre 30 buts, 32 buts, 33 buts, quelque chose à
écoute, on a perdu. Max était vraiment pas content que ce soit... Robin Van Persie. Alors, on va continuer le quiz, le temps...
Je ne me trompe pas, parce que Van Persie jouait pour Manchester United.
Oui.
Le deuxième compteur à ce moment-là, ça devait être Rain Rooney, parce que ces deux-là ont connu une saison complètement mongole. Puis je pense que Rooney puis lui ont genre un but d'écart.
Non, parce que le top 5 que j'ai donné, c'est le top 5 des buteurs de cette année. Fait que les 5 joueurs que j'ai nommés, c'est tous les joueurs qui étaient là. Mais un point de plus, celui qui est le plus proche du nombre de buts de Robin Van Persie cette année-là. Justine, t'as dit, je vais avoir besoin d'un chiffre.
Là, est-ce que c'est l'année de que c'est 2011-2012? 2012-2013. OK. Fait que non, c'est ça. Non, c'est pas l'année que Manu a gagné. Fait que c'est pas l'année que Manu a... En tout cas, il a pas fait 30 buts, mais je vais dire, je sais pas, 27.
Bruno?
Je vais dire 25.
Max, vous avez le droit de dire la même réponse, au pire vous avez un point, le même point.
Moi, j'avais 26 en tête.
Et le point s'en va à Maxime Carabine. 26 points pour Robin Van Persie en 2012-2013. Là, il n'y a pas de choix de réponse. Le premier qui nomme son nom répond qui a gagné la Premier League en
2012-2013.
Bruno.
Justine?
Ben, ouais.
Ben, c'est qui? Ouais.
C'est pas qui. Non, c'est Manu.
Ouais, c'est Manu.
Ah, fait que c'est 2011-2012, c'est City.
2011-2012, c'est City, puis Manu est allé rechercher okay. pour la dernière.
2011-2012, là, c'est l'année où Van Persie a genre 30 buts. Peux-tu me confirmer ça? 33?
C'est peut-être l'année qu'il jouait avec Arsenal.
Ah ouais, c'est ça.
Donc, juste pour remettre les compteurs, là, Bruno, tu as 4 points, Justine 3 et Max 1. Et pour un point... Qui a été le plus gros transfert de l'époque? Je vais vous nommer les choix de réponse. 1. Ravi Garcia. B. Eden Hazard. C. Robin Van Persie.
Max.
Ouais.
Van Persie?
Ouais.
Non. Bruno.
Wow.
Bruno. Je vais dire Eden Hazard.
Effectivement, non. Eden Hazard. Ouais. C'est les trois plus gros transferts. Un point pour le plus proche du montant.
Ouais, ça doit être dégueulasse, contrairement
à aujourd'hui. C'est quand ils l'ont acheté à LOSC.
Ouais. Ouais. Fait que ça doit être quelque chose comme genre, on a dû capoter pour genre 60 millions.
C'est une autre époque. C'est vraiment une autre époque. C'est hallucinant.
45.
Justine, 60. Bruno?
Je vais dire 20.
45, 20. Ben, en fait, Max et Bruno, vous êtes les plus proches, mais les deux de 15 millions. Là. Ouais. En fait, c'est... Ah non, c'est Max le plus proche parce qu'il a dit 45. C'est 35 millions d'euros.
Wow.
Eden Hazard.
Maintenant, on achète Anthony pour
95. C'est complètement fou. Et je donne deux points. Si vous me dites, who the fuck is Ravi Garcia? J'ai aucune idée c'était qui. Moi,
ben, Bruno, il était à Liverpool, ce gars-là.
Ouais.
Non.
Non?
Hein? Non.
Ravi Garcia?
Ouais.
J'avais moi aussi dans ma tête, c'est un joueur de Liverpool. C'est bon.
Moi aussi.
Mais c'est qui Garcia de Liverpool là-bas?
Je ne sais pas, mais Ravi Garcia avait signé pour Manchester City.
Non, ben, il venait de Liverpool.
Ouais, c'est peut-être bien pour ça. Mais il venait de Benfica. Il est parti pour 20 millions d'euros. C'était un milieu défensif, mais il est resté genre 2 ans. Là. Mais j'ai vu le nom, puis je me suis vraiment demandé c'était qui. Fait que c'est ça, lui était parti pour 20 millions. Puis comme souvent quand je le fais, là, le top 3, c'était le top 3 des transferts. Là. Fait que Robin Van Persie était deuxième avec, je pense que c'était autour de 30. Là, puis Eden Hazard était à 35.
Wow.
À l'inverse, qui a été la plus grosse vente pour un point? A, Mario Balotelli. B, Luka Modric. Ou C, Robin Van Persie?
Max.
Ouais.
Van Persie.
Non.
T'aurais pu d'Arsenal à Manchester United.
Bruno.
Oui.
Le deuxième, t'as dit, là, j'ai oublié son nom.
Modric.
Luka Modric. Effectivement, c'est une bonne réponse. Luka Modric était le plus gros transfert, en fait, la plus grosse vente. Il est parti des Tottenham Hotspurs au Real Madrid. Pour combien de millions d'euros on fait le même truc?
Ça doit être dégueulasse. Ça doit être genre...
C'est une autre époque.
18 millions.
C'est le plus gros transfert de la Ligue cette année-là, oui.
Fait que c'est automatiquement plus haut que 35.
Non, mais c'est genre la plus grosse vente. C'est pas le plus gros...
Achat, ok, ok. Ouais. Modric au Real. Ben, 25.
Bruno?
Ben, normalement, ici, Hazard, c'est 35. Il faut que ça soit pareil ou pas loin. Là. Fait que je vais dire 30.
C'est 35, Bruno. Tu fais le point. Wow. Non. Fait que il était vendu pour 35. Fait qu'il y a une rentrée de 30. La plus grosse rentrée, c'est 35. La plus grosse sortie, c'est 35.
Wow.
C'était vraiment une autre époque. Là. Ça n'a aucun sens. Là.
Ça fait 10 ans.
Ça fait 10 ans, puis les plus gros transferts pour la plus grosse ligue, c'était 35 millions. C'est hallucinant. C'est vraiment fou. Qui, pour deux points, vous nommez votre nom et vous me dites quelle équipe. Quelle a été la première équipe à virer son entraîneur en cours de saison?
On est en quelle année, là?
2012-2013.
OK. C'est probablement Chelsea avec José Mourinho une première fois. Une deuxième fois.
Fait que tu dis Chelsea, Justin?
Ouais.
Je te donne le deux points. C'était qui? Pour trois points, c'était qui l'entraîneur?
Ah oh non, c'était pas José Mourinho, c'était celui avec qui on a gagné la Champions League, là. Roberto...
Mancini.
Pas besoin d'une réponse.
Roberto.
C'est Mancini, non?
Non.
Ah non, c'est Gilles.
Ouais, Martinez.
C'est l'entraîneur qui a été viré.
Ouais, c'est ça. C'est l'année de la, c'est l'année après la Champions League, donc c'est Martinez, whatever. Je sais pas, il est parti où après.
Le gars de la Belgique, là?
Ouais.
Donc, là, vous avez toutes pas la bonne réponse. Là. C'est Robert Di Matteo.
Di Matteo.
Exactement.
Mais j'ai dit Roberto, ça va être bon.
Non, mais non, t'as dit prénom. T'as dit pas dans le prénom, les limites.
Ouais.
Mais c'est qui l'a remplacé pour trois points?
Roberto Mancini?
Non, c'est José Mourinho une deuxième fois.
Ah non, Bruno. C'est Benitez.
Bruno est un fuego. C'est Rafa Benitez qui est arrivé Benitez avec l'équipe. Et je veux la date la plus proche pour deux points.
En novembre. OK, mais
15 octobre.
15 octobre pour Max. Bruno.
Je veux dire le 15 novembre.
15 novembre, Justine.
Non, c'était tôt. C'était très tôt. Genre le 8 septembre.
Non, c'était le 21 novembre. Fait que Bruno, avec son 15 novembre, t'étais le plus proche. Mon Dieu, c'est un raz-de-marée. Et moi, le plus drôle, l'équipe était combienième? Le plus proche. Pour
Charles, c'était niaiseux, ça, là.
Il devait être quatrième.
Quatrième? Justine?
Je vais dire deuxième.
Trois.
Max a le point, a le deux points, en fait. C'était
complètement cave.
Il était troisième, mais on verrait un coach.
8 coachs en 10.
Ah oui. 12 points pour Bruno, 5 pour Justine, 4 pour Max. Pour un point, j'ai des choix de réponse. Pour qui jouait Romelu Lukaku à l'époque? A, Chelsea. B, Everton. Justine, veux-tu donner ta réponse?
Moi, c'est Everton.
Non. C.
En 2012-2013.
Ouais. Je peux-tu donner mes choix de réponse? Mais toi, tu réponds plus, là. A, Chelsea. B, Everton. C, Manchester United. D, West Brom.
West Ham. Ah, oh, West Brom.
West Brom.
Max, je te donne le point. Effectivement, c'était West Brom. C'est là qu'il a comme sûrement explosé. Puis...
Non, ben explosé, c'est encore...
Oh, oui, non.
C'est explosion.
Une petite affaire.
Qui a gagné le gant d'or? Ah, ben, trois points si vous l'avez, puis je donne les choix de réponse si jamais.
Le gant d'or. Max.
Ouais.
Ah, je pense plus qu'il est encore là, man, mais Edwin van der Sar, man, juste pour le...
Non, je pense qu'il était plus là.
Le gag, non?
Non.
Non, c'est Justin.
Ouais.
Joe Hart.
Effectivement, c'est Joe Hart qui a gagné le gant d'or. Mais sur l'équipe de l'année, c'était David De Gea. Fait que, comme, c'est bizarre, là. Le meilleur gardien, ça a été...
Puis il y en a eu... c'était une grosse saison pour Joe Hart, évidemment. Puis Peter Cech du côté de Chelsea aussi.
Ouais. Puis il y avait Pepe Reina aussi qui avait eu une bonne saison.
Oui,
et pour un point, dernière question. Trois points, en fait, puis un point si on s'en va au choix de réponse. Qui a été le meilleur coach? Nommé meilleur entraîneur de l'année.
Sir Alex Ferguson.
Ouais, c'est
Sir Alex Ferguson, effectivement.
Désolé, j'avais pas dit mon nom avant.
Oh, c'est pas grave.
C'est lui qui a eu, en fait, c'est sa dernière saison avant qu'il quitte. Les choix de réponse étaient Rafa Benitez, David Moyes et André Villas-Boas également. David Moyes qui avait eu une bonne saison également et qui s'était retrouvé du côté de Manchester United et le reste. The rest is history. On s'en rappellera. Donc, Bruno, tu as gagné avec 12 points et égalité en deuxième position, 8 points entre Max et Justine. Donc, voilà. C'était
cool. Moi, j'ai une question. Villas-Boas, c'était où?
Il était à Tottenham Hotspur.
Ah, OK.
Et c'est là qu'il a comme tout fait.
Ouais, puis qu'après ça, c'est ça. Les amis, on va terminer l'épisode avec notre match de la semaine. Je te l'ai écrit tard, Max, là, je te l'ai écrit sur Messenger, mais si jamais là, tu veux regarder pour nous trouver un match que toi, tu regarderais en fin de semaine prochaine du côté de la Premier League, tu peux nous le dire. Entre-temps, on va y aller avec celui de Bruno. Oui, on va y aller avec Bruno.
Yes, ben moi, j'aime bien ça, les matchs les vendredis. Puis je suis content qu'il soit de retour. Donc, ouais, c'est ça. Villa Southampton, vendredi à 3h. C'est le genre de game que je sais que je peux écouter et que ça va déranger absolument personne dans la maison. Fait que c'est mon match de la semaine.
Yes, tu prévois quoi comme.
Je pense que ça va finir genre 2-1 pour Villa. Je pense que Villa va gagner son deuxième match de la saison.
Ah ouais, hein?
Ouais.
Nice. Justine, t'ajoutes?
Spurs, Leicester. Samedi à 12h30, donc le gros match du samedi. On avait hâte de voir les Spurs en fin de semaine, de voir comment on allait jouer. Puis, je réitère ce que j'ai dit la semaine dernière. Est-ce que ce sera le dernier match de Brendan Rodgers? Oui ou non? J'ai dit la même chose à la semaine dernière. Donc, Thomas Tuchel est disponible parce que Leicester va vouloir se débarrasser de Rodgers.
C'est vrai que ça se pourrait pas mal. Pour ma part, moi, je vais avec un match obscur. Deux équipes qui viennent d'arriver, deux équipes promues. Nottingham Forest contre Fulham. C'est en même temps que Bruno, qui lui avait dit justement Villa puis Southampton. Je prédis une défaite de Nottingham Forest. Fulham fait quand même bien en ce début de saison. 2-1. 3-1. 3-1 même pour Fulham. Ouais. Et Max, ton match?
Moi, ce serait probablement le dernier de la semaine, Chelsea-Liverpool, vous l'avez mentionné, tu sais, Chelsea ont un nouveau groupe d'entraîneurs, fait que ça, il reste de sortir en Lyon, puis c'est une belle petite rivalité contre Liverpool également, fait que c'est une belle tête d'affiche pour quelqu'un qui suit plus ou moins ça, c'est quand même deux grandes équipes, fait que Chelsea-Liverpool.
Bruno, j'ai une question pour toi.
Oui.
Liverpool perd, en fait, ce
match. Ouais.
Klopp est congédié ou pas?
Non, mais non.
Je pense pas. Ils viennent le re-signer, puis tu sais, c'est pas le board de Chelsea. C'est pas le board de Chelsea, là. Ils vont pas.
Ouais, ils sont patients quand même.
Je pense qu'ils sont très patients, puis comme. Tu sais, si ça arrive, c'est correct, là. Je veux dire, je serais pas. Oui, ça va me fâcher un peu, parce que je l'aime bien, club, mais. J'ai bien l'impression que. Tu sais, il y a le match aussi en Champions League cette semaine là, contre l'Ajax. Là. Ils n'ont pas le choix de rebondir, là. Honnêtement. Que la reine soit morte, c'est quasiment un cadeau du ciel. Parce qu'il ne jouait pas en fin de semaine. Non, mais c'est...
Oui, non, je comprends.
Honnêtement, qu'il n'y ait pas eu de match la fin de semaine passée, comme je dis, moi, pour vrai, c'était, j'exagère, cadeau du ciel, mais c'est le timing parfait. Ça va permettre à tout le monde, pas à tout le monde de revenir, mais ils vont pouvoir se parler, là, parce que contre Napoli, là, c'était horrible. J'ai sacré plus souvent, en fait. Parce que mon feed était ordinaire, mais j'ai sacré à cause de ça. Mais j'ai sacré parce que maintenant, j'ai comme non, pour vrai, j'écoute pas ça. Là. À mi-temps, c'était 3-0, j'avais le goût de tout péter. Fait que non, c'est ça, mais je pense pas. Je pense que on est patient.
On le sait, hein?
Ça dépend.
Il y a un gros entraîneur qui est agent libre, il y a des équipes qui peuvent être moins patientes. Si
et,
ça va pas bien.
Et que Tuchel a toujours passé derrière Klopp. À chaque fois.
Et que Tuchel a toujours passé derrière Klopp.
Fait que ce serait comme la roue qui continue. Mais non, faudrait vraiment comme une dégelée, là, quelque chose de dégueulasse. Ça prendrait aussi avec la Champions League. Là, parce que tu sais, je veux dire, si en Champions League contre l'Ajax, ça va bien, tu sais, peut-être qu'ils vont faire comme garde. Au moins, là, on a replacé un peu. Tu sais, puis c'est la manière. Là, tu sais, si ça a l'air de qu'est-ce que ça a l'air contre Napoli, tu fais trois de suite que c'est de même. Là, ça se peut qu'ils fassent comme « Ah, là, regarde, ça marche pas », mais j'ai des doutes.
On verra bien. Il y a vraiment d'autres beaux matchs aussi. Everton-West Ham, deux équipes de semi-même calibre, surtout pour ce début d'année. Puis Manchester United-Leeds, qui est une rivalité plus qu'historique. Ça va être intéressant de voir ça. Max, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous jaser cette semaine.
Merci, Max.
Merci à vous.
Merci.
Où est-ce qu'on peut t'entendre maintenant? Je sais que tu as un nouveau projet, un nouveau podcast qui est sorti. Tu as eu d'ailleurs, ce qui est quand même très cool, un beau call-out à ton premier épisode. Là. Jonathan Ramsey qui a demandé à se battre contre James Cardinal-Lauzon lors du prochain Samouraï. Là, t'en as-tu un qui sort demain?
Non, en fait, ça sort tous les mardis.
OK.
Fait que ouais, checker ça, le Bum des Bums, petit podcast sur le MMA, puis... L'actualité, Samouraï, on essaie de rester local, pas pire. Essayer d'avoir Johan Lennes qui va nous parler de sa victoire d'hier. Fait que, ouais, des beaux petites vidéos qui s'en viennent. Sinon, Maxime Carabine avec un K. Faut me suivre sur Instagram, YouTube, Twitter. N'hésitez pas, Facebook. Merci de l'invitation, les Trois Lions, c'était bien le fun.
Yes, yes. Il y a un gros vlog qui est sorti aussi, là, si vous voulez voir l'envers du décor de Samouraï MMA. Là, il y a du très, très bon contenu. Tournilla, tu as vraiment fait une belle job, puis ça a été justement une très belle expérience aussi à vivre avec toi. Là, j'ai bien eu beaucoup de plaisir le 2 septembre dernier avec Samouraï, puis beaucoup de footage qu'on présente sur YouTube. Fait que je vous invite à aller voir, écouter ça. Bruno Larose, je te remercie beaucoup.
Ben merci Étienne, merci Max, merci Justine, c'était bien le fun.
Voilà, très cool Justine, on se voit cette semaine.
On se voit au stade.
Ben oui, très mardi, c'est déjà mon
rêve.
Une petite semaine. Voilà.
Ouais. Je te remercie beaucoup. Tout le monde. Puis on se reparle la semaine prochaine.
OK.